La mairie vous répond. Le rendez-vous des élus de l'Île-Dieu, chaque premier jeudi, tous les deux mois, à 18h10 sur Neptune FM.
Dixième numéro de La mairie vous répond. On parle culture sur l'Île-Dieu, tour de table des invités. Bonjour Bruno Nourry.
Bonjour.
Vous êtes le maire de l'Île-Dieu. Bonjour Sylvie Groc.
Bonjour Roland.
Vous êtes première adjointe et en charge de la culture et du patrimoine. Bonjour Pascal Thériouf.
Bonjour Roland.
Vous êtes responsable du service patrimoine. Bonjour Manuel Guillon.
Bonjour.
Vous êtes directeur de la culture et de l'animation sur le territoire de l'Île-Dieu. Dans le budget de la mairie de l'Île-Dieu, la culture représente quel pourcentage, Bruno Nourry?
Alors, si on parle de pourcentage du budget général, hein, parce qu'on a un certain nombre de budgets annexes, on est à peu près à 7% du budget général, ce qui fait un peu moins de 700 000 euros de budget, composé à peu près pour moitié de la partie salariale et à peu près de la moitié du fonctionnement, c'est-à-dire les actions qui sont mises en œuvre. Alors ça c'est le budget, en sachant que derrière on a un certain nombre de recettes. Tout d'abord les recettes de fonctionnement, que ce soit le cinéma pour un peu plus de 200 000 euros par an, les spectacles pour un peu plus de 20 000 euros par an, et puis les visites du patrimoine, parce que Carillon évoquera ces questions-là tout à l'heure, pour un peu plus de 50 000. Donc c'est des recettes à presque 300 000 euros par an, auxquelles s'adjoignent un certain nombre de subventions, d'accompagnement de partenaires financiers, que ce soit la région qui nous accompagne sur notre politique culturelle, donc pour 36 000 euros par an, sur la partie spécifiquement culture, spectacle, mais nous accompagne aussi sur le patrimoine. Bon, après, il y a des subventions aussi sur le cinéma ou sur la bibliothèque qui permettent en fait d'avoir, on va dire, à peu près la moitié du budget couvert par soit des recettes, soit des subventions. Donc, c'est quand même important de pouvoir maintenir ce niveau-là de budget.
7% par rapport à une commune du continent, c'est plus, c'est moins, ou vous n'avez pas de chiffres par rapport aux communes du continent?
pas toujours de chiffres, et puis c'est difficile de se comparer sur la culture. Il y a des communes qui ont très peu de politique culturelle, d'autres qui l'ont un peu plus. En même temps, on se comparerait à un budget d'une commune de l'Île-Dieu qui a tendance à être plus important que sur les communes continentales, et pour cause, parce qu'on gère
l'insularité,
et puis on gère un certain nombre de services que d'autres n'ont pas, ne serait-ce que, par exemple, le cinéma est lui-même dans le budget général, donc il augmente ce budget général. Maintenant, je pense qu'on a quand même une politique culturelle très active sur l'île, et pour cause, l'accès à la culture sur l'Île-Dieu, c'est important, puisqu'on n'a pas forcément accès à un certain nombre de services que peuvent avoir les continentaux. On sait bien, si on maintient un cinéma, si on fait aussi un certain nombre de spectacles de qualité sur l'île, c'est pour permettre justement aux gens de l'île d'avoir accès à ces services, et ça nous semble très important qu'on soit pas un territoire qui soit exclu de la culture. Donc c'est important de continuer cette politique culturelle.
Ce poste de dépense est-il appelé à diminuer?
Alors,
dans les années suivantes,
on a moins de dotations de l'État, on sait bien,
c'est dotations
qui baissent, donc c'est vrai qu'on sert un peu partout, même si, je veux dire, l'ensemble des services font de gros efforts, c'était pas désert non plus, on fait attention parce qu'on gère des deniers publics, néanmoins... encore une fois, ce que je disais tout à l'heure, la culture doit pas être le parent pauvre du budget communal. Donc, on a à cœur, nous, de pouvoir continuer cette politique culturelle, de maintenir ce niveau de politique culturelle, même si ça passe par effectivement quelques resserrements qui sont pas faciles à faire, mais on tient à maintenir ce nombre de spectacles annuels hors saison qu'on fait, on tient à maintenir notre cinéma, on tient à maintenir nos visites de patrimoine, nos actions autour du patrimoine, parce que c'est notre vie, c'est notre ce qui fait aussi notre différence sur l'île. Donc c'est important de pouvoir continuer, donc on fera tout pour maintenir ce budget.
Pascal Cariou, comment le service patrimoine joue un rôle dans la culture ilaise?
Bon, alors je vais commencer très fort. Le patrimoine, c'est la culture ilaise. Donc, le rôle, il est essentiel. Parce qu'en fait, dans la notion de patrimoine, il y a la notion d'héritage. L'héritage de nos pères. Alors, c'est au sens large, hein, parce que la plupart du temps, la culture, elle passe au niveau de la transmission plutôt par les femmes que par les hommes. on parle d'une langue maternelle, par exemple, hein, ou l'histoire d'un groupe, c'est souvent les femmes qui en sont porteuses. Donc bon, quand on a dit ça, bah, le rôle du service patrimoine, c'est de contribuer à la connaissance de cet héritage, donc par sa conservation, sa valorisation et sa transmission. Parce que si c'est pas transmis, ça sert à rien. Voilà. Donc la conservation, bah, le service patrimoine mène un travail de recherche, de collecte, de numérisation de documents. Et on espère, on participe, et on espère un jour pouvoir vraiment la diffuser le plus largement possible à la création d'une base de données multimédia qui concerne l'Île-Dieu et qui sera un jour, j'espère, le centre de ressources patrimoniales municipales.
C'est voilà. En cours, ce
c'est
projet ?
C'est en cours depuis déjà plusieurs années, et puis ça se construit petit à petit parce que c'est très long. La valorisation, bah, il faut tous ces documents, il faut les analyser, les comprendre, il faut les organiser. Et puis, il faut les mettre en synergie avec d'autres documents et informations qui nous viennent régulièrement de la population, d'ailleurs. Et toutes ces informations recueillies, il faut réaliser des travaux de synthèse pour pouvoir enrichir la connaissance de ce patrimoine qui est un patrimoine bâti, un patrimoine naturel et puis un patrimoine immatériel qui est très important. Et ensuite, après, il faut. Donc, ça, c'est les panneaux qu'on peut réaliser, c'est l'écriture documentaire sur laquelle le service travaille toute l'année, les expos, des créations multimédia. Et puis, après, le volet le plus large, c'est la transmission. En tout cas, celui qui se voit le plus, voilà, qui est la restitution au public. Et on essaie de faire une restitution qui soit la plus large possible. Donc, il y a évidemment toutes les visites à destination. Des touristes, mais pas que, parce qu'on a beaucoup d'îlets qui participent à nos visites maintenant. Des animations familiales, comme les chasses au trésor, par exemple, fonctionnent très très bien sur les petites vacances avec les familles de l'Île-Dieu.
Chasse au trésor à Port-Joinville et à Saint-Sauveur, par exemple.
Et à Saint-Sauveur, voilà. Les rallyes aussi fonctionnent très bien. Et puis, après les visites qui permettent de découvrir le territoire, bah, y a les films, les publications, bientôt le site internet, parce qu'on on est en train de travailler pour mettre des choses à disposition.
Le service patrimoine va avoir son propre site internet ?
Non, sur le site de la mairie.
D'accord, ça sera une page sur le site de la mairie.
Voilà, hein, mais une page plus nourrie que qu'elle l'est aujourd'hui, puisque le site internet est en refonte et on va pouvoir techniquement y mettre davantage de choses.
De contenu ?
Voilà. Et puis, il y a toutes les animations, hein, les conférences, les soirées. Hein.
Une belle exposition aussi à découvrir durant cette saison estivale. Jean-Olivier Héron à découvrir.
Je crois que ça va être Sylvie.
Oui, là, je voudrais dire un mot. En effet, c'est une très, très belle exposition. Et c'est surtout une exposition très émouvante parce que M. Héron l'a appelé « Merci pour tout ». Et nous, on devrait l'appeler « Merci M. Héron » parce que pour tout ce qu'il a fait sur l'île, tout ce qu'il a fait avec les jeunes, il a énormément travaillé avec les jeunes de l'île. Alors, pour les plus anciens, ceux qui ont le plus de mémoire, il y a eu les ateliers du mercredi, l'école du dimanche, le journal des mousses, le journal des jeunes dieux. Moi, j'adore ce titre. Et là, Monsieur Héron remercie sa terre d'accueil, mais vraiment, nous pouvons dire merci, Monsieur Héron. Il faudrait que les élèves viennent voir cette exposition. Elle sera à l'école du Ponant, puisque pour le moment, nous n'avons pas d'autres salles d'exposition. Vous verrez tout le planel de ce que fait cet homme. C'est magnifique, vraiment magnifique. Voilà, alors venez tous. C'est à partir du 15 juillet jusqu'au 20 août à l'école du Ponant.
Pascal, qu'est-ce que vous avez rajouté par rapport à cette exposition ?
Je crois que si j'ai envie de donner envie aux gens de venir, moi j'insisterai sur les multiples facettes du talent de Jean-Olivier, parce qu'en fait, on connaît assez peu de choses de lui. Tout le monde connaît les Métamorphoses, qui sont assez extraordinaires, mais il a fait, au cours de sa carrière, des choses extrêmement variées, extrêmement diverses, et toujours, toujours, toujours avec la volonté, lui aussi, de transmettre quelque chose. Énormément d'ouvrages pour la jeunesse qui sont des ouvrages explicatifs, en tout cas, et informatifs. Et il a une très jolie phrase que j'aimerais bien vous dire, parce que je trouve que ça le résume assez bien. Au niveau de son action en faveur des jeunes, il dit... Tous les livres pédagogiques pourraient être le lieu d'une rencontre amoureuse avec le savoir. Et ça, moi, ça me scotche parce que c'est vrai que quand on regarde ce qu'il a fait, c'est exactement ça. C'est toujours extrêmement amusant, extrêmement intelligent.
Ludique.
Et très, très ludique.
Il y a aussi, je ne sais pas si on peut appeler ça deux œuvres, mais tout le monde a connu le logo de l'Aspect. C'est Monsieur Héron qui l'a dessiné. Il est magnifique. Et le logo des produits de l'Île-Dieu, c'est aussi Monsieur Héron qui l'a dessiné.
Une rencontre aussi débat sur le front guerre 14-18 avec Pierre et Marie Cheyouf, Pascal.
Oui, alors là, on est complètement dans ce travail de collecte, d'analyse et de restitution dont je parlais. En 2013, donc le ministère a lancé ce qu'ils ont appelé la grande collecte, hein, donc qui consistait à demander aux gens d'amener leurs archives familiales dans les services d'archives, les bibliothèques ou les mairies. Donc nous, on a lancé un appel à la population qui a été relayé, mais assez modestement, sauf que dans ce lot, il y avait une famille qui nous a amené un échange de correspondance donc entre un gars du Kerchalon, marin, parti à la guerre dans la Somme,
Pierre.
Et sa femme, donc Pierre, et Marie Chailloux. Nous, on s'est attachés à dépouiller tout ce fonds qui était assez exemplaire, puisqu'il y a quand même 89 correspondances, plus des documents. Et on a réussi finalement, je dis on parce que Guillaume Galdra a largement participé à cette aventure avec moi, on a réussi à restituer toute la guerre de ce gars au travers de leurs écrits. Et bah, je crois qu'on
c'est
a,
très touchant.
On a fait quelque chose donc, qui se présente sous la forme d'une soirée, d'un PowerPoint avec des lectures de leurs écrits. On n'a absolument rien modifié. Et je crois que la première restitution, en tout cas à la famille en avril, et puis devant un public choisi, invité, a été, je crois, un moment assez émouvant. Et moi, j'en suis très heureuse parce que nous-mêmes, en le fabriquant, en le travaillant, on était très, souvent très, très émus. Ouais.
La famille, que des bons retours par rapport à cette exposition.
Je crois, oui. Mm-hmm. Ouais, ouais.
Manuel Guillon, la saison culturelle 2015-2016 fut un bon cru ?
Ben, il me semble, c'est à vous de vous poser la question. Enfin, c'était un bon cru en termes de fréquentation. Comme à chaque fois, on veille avec les élus de la commission culture à équilibrer la programmation, c'est-à-dire à faire en sorte de d'échelonner, qu'il y ait une pièce de théâtre, qu'il y ait ensuite un concert, qu'il y ait un concert rock, qu'il y ait un concert de musique du monde, de façon à ce que l'ensemble des publics puissent apprécier ce qui se donne ici à l'Île-Dieu. Comme l'a dit Monsieur le maire, c'est vrai que s'il n'y avait pas de spectacle ici, je veux dire au plus fort de l'hiver, enfin voilà, les gens sont obligés de partir sur le continent, c'est très très embêtant pour l'accès à la culture et au savoir. Et donc l'idée, c'est de montrer un éventail le plus large possible de la création artistique actuelle.
Et l'année 2015-2016, il était tout de même assez large.
Oui, oui, le plus large possible.
L'après-midi d'un faune, par exemple.
Ah oui, c'est un très beau comment, spectacle pour enfants. Donc je sais pas, enfin pour enfants, non.
Pas que pour enfants.
Je me rappelle vous y avoir vu, donc même pour les grands enfants, ça fonctionnait. Donc l'idée, c'est vraiment de montrer ce que la création artistique contemporaine peut exister vraiment directement à l'Île-Dieu, quoi.
Gustave Parking aussi, on s'en souvient.
Gustave Parking, voilà.
Très drôle.
Bien fait gondoler, j'ai l'impression, tout le casino. Donc, on le voit bien en termes de fréquentation. D'ailleurs, ça marche de plus en plus.
Tant mieux pour vous.
Tant mieux pour nous.
Quels spectacles, d'ailleurs, ont le mieux fonctionné?
Alors, justement, je regardais un peu sur... j'ai fait un petit coup de rétro sur la programmation passée. Et il y a eu trois spectacles de complet cette année. Il y a eu les Selkilt. Mm-hmm. Le 13 novembre,
il y a eu
un concert rock celtique, en plus qui avait une connotation particulière, je sais pas si vous en souvenez, c'était le lendemain des attentats au Bataclan, il y avait une charge émotionnelle très très forte, on était tous très émus, et c'était un beau moment de réelle communion, je pense. Il y avait le plaisir d'écouter du rock, rôle sceptique, c'est évident, mais il y avait quelque chose en plus lors de cette soirée.
Et donc, il y avait une atmosphère un petit peu qui sortait un petit peu de l'ordinaire.
Ouais, moi je l'ai perçu comme ça en tout cas.
Ouais, moi je suis tout à fait d'accord. C'est vrai que on s'est posé la question suite à ces tragiques attentats de maintenir le concert ou pas. Il nous a semblé important de pouvoir dire que si on est Charlie, c'est aussi de montrer qu'on est là, de continuer de vivre. Alors on a observé un moment de recueillement parce qu'on a fait une minute de silence. Alors à l'amorce d'un concert de rock avec un public un petit peu chaud, cette salle du casino qui a fait un silence complet, c'était vraiment très très touchant et je pense que c'était le plus bel hommage qu'on pouvait faire pour ces attentats à la mémoire des victimes.
Manuel Guillon, les autres spectacles qui ont bien fonctionné?
Alors, il y a aussi un spectacle qui a très bien fonctionné, c'était Big Daddy Wilson, je ne sais pas si vous vous souvenez, un bluesman qui venait du Mississippi, qui était complet également. Et un autre, tout à fait, dans un autre genre, c'était L'École des magiciens de Sébastien Mossière. Donc, vous voyez, trois spectacles très différents qui étaient
très
complets.
Éclectique, oui.
Très éclectiques, du rock celtique, de la magie, du blues du Mississippi. Vous voyez, voilà, c'est vraiment l'image qu'on veut donner de la saison culturelle à Lille-Dieu hors saison.
Et comment se fait cette programmation?
Alors, cette programmation, elle se fait avec les élus, justement, et ce n'est pas... C'est pas uniquement le directeur de service culture, moi-même qui décide. Voilà, il y a des choix. L'important, il y a quelques principes quand même à respecter, c'est de voir les spectacles qui sont programmés. C'est important, parce qu'on peut pas se baser sur YouTube, on peut pas se baser sur un CD. Il faut voir ce que ça peut donner en live. Ça s'appelle bien du spectacle vivant. Mm-hmm. Donc, il faut l'avoir sur scène.
Mais c'est vrai que je voudrais saluer aussi le travail de Manuel sur cette question, parce qu'effectivement, faut aller voir les spectacles, faut peut-être en voir 3 ou 4, 5 avant d'en retenir éventuellement un. Donc ça demande beaucoup de travail en amont, mais c'est ce qui fait aussi la qualité de cette programmation, et on en cueille les fruits aussi par des spectacles où on fait salle comble. Donc je crois que c'est intéressant, on a une belle formulation et je voudrais saluer le travail qui est fait, que ce soit par les techniciens ou les élus de la commission culture.
Pour le théâtre, Manu, tu pars souvent à Avignon, chaque année.
Oui, voilà, on part à Avignon et avec madame Sylvie Grock, on part là-bas et on repère des spectacles, des concerts aussi, parce que c'est vrai qu'on ne peut pas se permettre d'aller à Nantes ou à Angers voir un spectacle et évidemment pas le garder. Vous imaginez, ça fait des sous à la commune, voilà. Donc, moi, je préfère concentrer dans un festival, en l'occurrence Avignon, et puis on voit beaucoup, beaucoup de spectacles et c'est à ce moment-là que se font les choix.
La carte d'abonnement a-t-elle été aussi un moteur pour la fréquentation?
Je pense que ça a été un moteur. Ça a surtout permis de fidéliser un public. On voyait qu'il y avait cette attente-là qu'on décelait. Et ça a permis donc, il y a déjà, dès le mois de septembre, il y a eu 50 abonnés à la saison culturelle. Et ça a permis de revoir donc ces personnes-là tout au long de la saison.
Elle est reconduite pour l'année 2016-2017.
On reconduit ce même principe, ouais.
Et peux-tu nous rappeler un petit peu le principe?
Alors, le principe, il est très simple, hein, et vraiment, même basique. Une carte d'abonnement est gratuite. Elle est active à partir de 3 spectacles sélectionnés.
Il faut acheter 3 spectacles.
Il faut acheter 3 places à un spectacle. Mm-hmm. Parce que 3 spectacles, ça fait cher quand même. 3 places à un spectacle. Et puis, à partir de ce moment-là, donc, on a un tarif préférentiel par rapport aux non-abonnés. Et puis, il y a également une priorité. Lorsqu'on parlait des spectacles qui étaient complets, un abonné aura priorité sur un non-abonné pour pouvoir rentrer dans la salle. Et troisième avantage, si on veut, de cette carte d'abonnement, donc c'est un concert offert aux abonnés.
Et cette carte n'est pas nominative?
Elle est nominative.
Rapidement, quels spectacles seront proposés durant la saison 2016-2017, Manuel?
Alors voilà, la programmation est faite. Je réserve vraiment la primeur donc aux abonnés le 27 juillet prochain, mais je peux déjà vous en parler un peu. Donc le 3 septembre prochain, ça va commencer de façon un peu bruyante.
Oui, ça fait un petit peu de bruit.
Ouais, un petit peu de bruit.
Voilà, quoi.
Mais bon, ça joue bien aussi. Mais c'est le bal des enragés. Alors, ceux qui ne connaissent pas le bal des enragés, c'est le principe d'un bal, un bal pop, sauf que c'est animé par des rockers et des punks. Voilà, donc on va avoir les Tagada Jones, des membres de Lofofora, Punish Yourself, Black Bomb Art, enfin voilà. Ça va être 2h30, 2h15 de show. Et c'est intéressant parce que c'est un concert qu'on organise avec une association. C'est toujours bien, on organise ce concert, et ça ne pourrait pas se faire sans eux d'ailleurs, avec l'association Rocanoia, que je tiens d'ailleurs à saluer au passage. Ils nous permettent donc d'organiser un événement de cette ampleur, parce que c'est lourd pour nous, mais c'est vraiment très utile. En plus, c'est très, très bien, je pense, parce que ça leur permet, eux, de se faire un petit fond de roulement pour ensuite mener leurs actions tout au long de l'année.
Pour rester sur le bal des enragés, ils font des reprises de Nirvana, de Trust, j'en passe et des meilleurs.
Voilà.
Ça va faire du bruit.
Ça va faire un peu de bruit, donc le 3 septembre prochain.
Les autres rendez-vous à découvrir?
Alors,
cette saison 2016-2017.
Voilà, je vais vous donner quelques dates, comme ça. Le samedi 17 septembre, on va recevoir Christophe Alévèque. Donc un humoriste assez connu, voilà, qui va venir ici, et avec un show assez étonnant.
Un spectacle piquant à première vue.
Voilà, avec Christophe Alévèque, c'est pas lisse. Hein, mais voilà, c'est très très bien, ça s'appelle « Ça ira mieux demain ». Donc vous voyez tout le... Voilà, c'est bon, ça ira mieux demain.
C'est Christophe Alévèque. Vraiment, c'est un spectacle exceptionnel. Et je peux vous dire qu'à
vous
la fin...
Vu, c'est lui, Rock.
Je l'ai vu à Avignon, et je peux vous dire qu'à la fin, il interprète une chanson de Léo Ferret, et... Je suis une grande fan de Léo Ferret, et cette chanson, elle est très bien évidemment interprétée par Léo Ferret, mais elle est très très bien interprétée par Christophe Alévèque. Rien que pour cette chanson, il faut venir voir le spectacle.
C'est bien vendu.
Ouais, c'est bien vendu, mais voilà, c'est vraiment très drôle, quoi. C'est vraiment très drôle. Et puis donc, après, donc en octobre, on aura le Marlou Théâtre qui est en résidence et qui va présenter un projet autour de Moby Dick, qui s'appelle Acab Rhapsody. Je passe un peu vite, hein, on viendra en vous en parler plus en détail. Le 12 novembre, on a un spectacle de flamenco pour les enfants qui avait été initialement prévu en avril, et puis que la danseuse devant accoucher ce jour-là, le spectacle a dû être annulé, remplacé par la magie, voilà. Et le 26 novembre, on a une très très belle pièce de théâtre de la compagnie Capo Comica, c'est Médecin malgré lui, c'est formidable, vraiment, voilà,
C'est lui, vous êtes d'accord.
On retombe à l'époque de Molière. On est vraiment dans l'atmosphère du théâtre de Molière et c'est sensationnel, vraiment.
Voilà. Et cette année, on finira donc le samedi 5 décembre par un concert dessiné. Alors, qu'est-ce que c'est, un concert dessiné? C'est un dessinateur de BD qui va d'ailleurs être invité ici en résidence de septembre à décembre.
À la bibliothèque?
Non, ça va se faire au casino. Mm-hmm. Ça va se faire au casino. Il va être accompagné par des musiciens, et en même temps qu'il est accompagné par des musiciens, il va créer une bande dessinée en live. Voilà.
C'est un petit peu le principe du ciné-concert.
C'est un peu le principe du ciné-concert en bande dessinée, oui.
La bibliothèque municipale à l'école du Ponant est ouverte depuis le 8 septembre 2015. Les lecteurs de tous horizons fréquentent-ils ce lieu?
Ça fonctionne très très bien. Sylvie peut en parler également. On le voit, cette bibliothèque, on l'a souhaité vraiment comme un espace qu'on dit troisième lieu, comme une agora où les gens passent, où les gens discutent, parlent des livres qu'ils ont aimés, qu'ils n'ont pas aimés, ou parlent même pas de livres. Enfin voilà, un espace vraiment de lien social entre les gens. Et en ça, ça fonctionne vraiment très bien.
Et si ça fonctionne bien, c'est grâce à nos bénévoles. Il y a 19 bénévoles, et vraiment, ils ont su créer ce lieu comme on l'espérait. C'est-à-dire que la bibliothèque, c'est plus vraiment une bibliothèque où on vient chercher des livres, où faut pas faire de bruit, où voilà. C'est un lieu d'échange, un lieu de rencontre.
De convivialité.
De convivialité. Et ça, vraiment, c'est réussi grâce à ces bénévoles et aussi, je dois la citer, à Geneviève qui s'occupe de la bibliothèque, qui est employée communale. Et vraiment, c'est toute notre espérance du lieu, parce qu'on voulait que ce soit bien compris, que ce soit. Et il faut que les gens passent, même s'ils n'ont pas envie de louer un livre, de prendre un livre, de louer. C'est pratiquement gratuit, hein. C'est 10 euros par an.
L'adhésion,
après,
oui.
Tout est gratuit. Même s'ils n'ont pas envie de prendre un livre, il faut qu'ils passent, ils rencontreront des gens, ils discuteront. Vraiment, c'est chaleureux, il faut passer à la bibliothèque, c'est quelque chose.
Bruno. Je voulais juste que vous citiez le dernier chiffre du nombre d'abonnements, peut-être, je pense que c'est intéressant.
Donc voilà, on est presque à 500 voilà, abonnés en 10 mois, donc c'est vraiment l'objectif est rempli. Quoi.
Et on n'a pas encore passé la saison estivale, hein, donc ça veut dire que les abonnés sont vraiment des gens de l'île-dieu.
La bibliothèque, d'ailleurs, ce n'est pas qu'un lieu de lecture, il y a aussi des animations et des activités.
Oui, il y a des animations de toutes sortes.
Il y a du café lecture.
On peut même apprendre le tricot.
Des jeux de société, par exemple.
Absolument.
Autre lieu aussi culturel sur l'île-dieu, le ciné-île. Pouvez-vous communiquer les chiffres de fréquentation pour l'année 2015?
Alors, on est à 30 000 spectateurs. Et c'est une moyenne qu'on a. Évidemment, un cinéma à l'île-dieu, il est lié également au temps. Parce que, en gros, quand l'été est pourri, ben, on fait, nous, une très bonne saison. C'est comme ça, mais c'est terrible.
C'est logique.
Voilà. Donc, mais ça, c'est un lieu qui fonctionne très bien. D'ailleurs, j'ai pris quelques chiffres avant de venir. C'est un lieu qui, depuis 2 ans, hors investissement, mais c'est un lieu qui s'équilibre. C'est-à-dire que les recettes couvrent totalement les dépenses.
Le cinéma propose des sorties nationales, mais c'est aussi un cinéma d'art et d'essai. Manuel, peux-tu nous rappeler un petit peu ce que c'est le cinéma d'art et d'essai?
Alors, le cinéma d'art et d'essai, en fait, ça vise à promouvoir le cinéma indépendant. Donc, on peut passer de ce qu'on appelle des blockbusters, hein, c'est pas le problème, mais on vise aussi à diffuser des films peu diffusés, ou des premiers films, ou des films issus de pays peu représentés dans les sorties nationales. Voilà, c'est tout ça, cinéma d'art et d'essai. C'est aussi des débats. On en organise beaucoup. L'équipe du cinéma, on a organisé près d'une douzaine l'année passée. C'est aussi des séances avec les écoles et les collèges. C'est aussi du ciné-club. Vous voyez, c'est là aussi, on parlait de la bibliothèque comme d'un lieu de vie. On souhaite que le cinéma soit pas juste un lieu de diffusion du cinéma, mais également un lieu de vie où les gens se retrouvent, ont plaisir à échanger et à se retrouver ensemble.
Le ciné-club, c'est avec l'association Élèze Oyafilm.
Voilà.
Et juste Bruno, pour compléter les propos de Manuel, c'est vrai que auparavant le cinéma était déléguée à une association qui avait arrêté, etc. Et on avait fait le pari de le reprendre en régie, ce qui n'était pas évident parce que c'est un vrai métier que de faire de la programmation, etc. Et surtout, on avait un objectif, c'était pouvoir faire fonctionner ce cinéma en pérennisant les emplois sans que ça coûte trop
cher à la commune.
Voilà. Et depuis quelques années, c'est assez constant, on équilibre ce budget. Donc c'est un bel outil pour le territoire, c'est un vrai pari gagné. Et je tiens à remercier là encore les élus et techniciens qui s'en occupent parce que vraiment, je crois qu'il offre satisfaction à tout le monde. Et ça permet aussi, quand je dis on le prend en régie, de maîtriser aussi la politique tarifaire, etc. etc. parce que souvent, on prend nos places de cinéma à l'île-dieu, c'est moins cher que sur le continent, il y a des systèmes d'abonnement, etc. Donc ça aussi, c'est un moyen d'accès à la culture qui est important et qu'on entend continuer dans cette voie-là.
De tête, c'est 50 euros les 10 séances, non,
Manuel? Oui, c'est ça. Oui.
Ouais, c'est ça, ouais.
Bruno Nourry, quelque chose à rajouter avant de se dire au revoir?
Oui, c'est juste, faire un petit clin d'œil au Musée de la Pêche, parce qu'ils viennent d'avoir une étoile au Guide Vert Michelin, donc c'est une belle reconnaissance aussi. Je tenais à saluer le travail qu'ils font. Je pense que une étoile au Guide Vert, c'est pas rien. Donc je voulais juste le signaler. Et au passage, j'en profite pour remercier tout d'abord les techniciens et les élus, j'ai dit tout à l'heure, mais aussi tous ceux qui nous permettent d'avancer dans la culture sur l'île. Tous ces bénévoles, parfois un peu anonymes, comme les gens qui nous aident sur la bibliothèque, mais aussi ceux qui nous aident un peu plus activement dans du travail de recherche. Je pense à des gens comme Jean-François Henry, Donc remercier tous ces gens qui œuvrent pour la culture sur l'île, parce que on n'arriverait pas à le faire tout seul. C'est bien qu'on soit aussi qu'on amène du monde avec nous et qu'on ait ce travail de partenariat, parce que c'est comme ça aussi qu'on avance. Et je crois qu'on peut le dire aujourd'hui, la culture à l'Île-Dieu. Alors on parlait par rapport aux autres communes, bah je peux vous dire que on a la chance d'avoir sur ce petit territoire une vraie politique culturelle qui
et
avance.
Beaucoup de services.
Ouais. Ouais, c'est péchu, donc c'est bien. Et on le voit, nos spectacles fonctionnent, etc. On a une vraie assiduité, que ce soit cinéma, bibliothèque, dans nos spectacles, etc. Et ça aussi, c'est une belle reconnaissance pour tous ceux qui œuvrent sur la culture sur l'île.
Sylvie Groc, le mot de la fin, avant de dire.
Oui, j'aurais voulu dire quelque chose sur les cérémonies de la guerre de 14-18, parce que en 2017, donc, on va parler, bien sûr, du drame de l'Imer, et donc, avec une création spéciale pour cet événement. Et nous allons aussi commémorer le drame du Sequana, parce que on n'en a jamais vraiment parlé très officiellement.
C'est une histoire peu connue.
C'est une histoire peu connue et pourtant vraiment dramatique. Il y a quand même 200 tirailleurs sénégalais qui ont disparu dans l'affaire. Et alors l'autre jour, on était en commission culture et FX nous a rappelé que les tirailleurs sénégalais n'étaient pas tous sénégalais, et ceux qui sont disparus dans le drame du Sequana, pour la plupart, étaient burkinabés. Donc voilà, ça lui tenait à cœur et c'est vrai qu'il faut le dire. Donc on a invité, je ne sais pas s'il pourra venir, mais on a invité aussi l'ambassadeur du Burkina Faso pour cette cérémonie. Et je pense que c'était important de le faire.
Juste pour compléter un petit peu les propos de Sylvie, je pense que Jean-François Henry nous a beaucoup éclairé sur cette période de la Première Guerre mondiale, où dans la tête des gens, la Première Guerre mondiale, c'est les champs de bataille de la Somme, c'est Verdun, c'est... Mais en fait, le front, il était aussi sur l'eau, hein, parce que en 1917, c'est la guerre sous-marine à outrance, l'Imer ou le Sequana sont un peu des victimes de cette guerre sous-marine à outrance. Et en 1917, il n'y a aucun bateau qui sort à la grande pêche, qui sort du port de l'Île-Dieu. Donc le front, il est aussi sur l'eau, il est autour de nous. Et je pense que c'est bien de le rappeler, parce que cette guerre mondiale, quand on va commémorer les mers, le Sequana, ça va de la Norvège au Sénégal, au Burkina Faso, etc. Et c'est bien cette dimension mondiale qu'il faut rappeler. Donc c'est pas seulement de dire qu'il y a des gens de l'Île-Dieu qui sont partis faire la guerre. Ça a été un vrai drame, hein, parce qu'on a eu plus d'une centaine de morts sur l'île de soldats. Mais c'est aussi cette guerre qui insidieuse qui avait lieu autour de l'île, où on vivait un peu dans la peur de voir un bout allemand faire surface devant le port. Et je crois que c'est important de le rappeler que cette guerre, on l'a vécue ici sur l'île, on a vécu les conséquences, mais aussi sur les drames qui se sont passés autour de l'Île-Dieu. Donc ça prend une dimension toute particulière aussi, parce que la mer était aussi un front, et je crois que c'est pour ça aussi qu'on fait tout ce travail de commémoration autour de cette guerre de 14-18, parce que c'est souvent des histoires méconnues, et c'est important de pouvoir le rappeler. Bon, l'année dernière, on avait aussi cette exposition sur les internés de la Citadelle.
Qui est toujours en place,
oui, ces années. Toujours en place. Mais c'était aussi de rappeler toutes ces histoires-là où on a vraiment vécu cette guerre de l'intérieur. Et je pense que ça fait aussi partie de notre culture, et c'est bien de pouvoir le rappeler.
Bruno a remercié Jean-François Henry, et je dois dire que c'est un vrai bonheur de travailler avec lui. Bon, si j'avais pas mon grand âge, je crois que je reprendrais des études d'histoire s'il voulait bien me donner des cours.
Pascal Cariou, un mot de la fin.
Ouais, moi je voulais juste rebondir sur ce qui vient d'être dit. C'est vrai que c'est assez étrange, étonnant et en même temps hyper intéressant. C'est-à-dire que le choix de la mairie de L'Île-Dieu, ça a été vraiment de travailler sur ces, dans le cadre de ces commémorations, sur de l'histoire locale. Et en fait, on se rend compte qu'en tirant comme ça des petits fils de l'histoire locale, bah, effectivement, il devient évident que cette guerre était mondiale, puisqu'on se retrouve effectivement à parler des Austro-Hongrois, des Allemands, des Norvégiens, donc des tirailleurs sénégalais. Enfin, c'est même au niveau de L'Île-Dieu, qui est un petit territoire loin de tout ça, a priori, et assez excentré, eh bien, on est dans la guerre mondiale à fond.
Et la guerre était présente.
Ouais. Ouais.
Manuel Guillon, du service culturel. Quelque chose à rajouter avant de te dire au revoir ?
Non, juste dire que c'est vrai que ça fait du bien de voir cette population avide de savoir, que ce soit les visites guidées, les visites du patrimoine, le spectacle. Enfin, on voit qu'il y a une effervescence autour de la culture et on a parlé beaucoup de la mairie puisque c'est l'émission sur la mairie, mais on voit aussi toutes les associations, tout ce qu'elles organisent sur le terrain, les concerts, je pense à nos amis des Berniques, je pense à nos amis des motards, enfin voilà, qui organisent, qui font bouger le territoire à l'année et qui prouvent, mairie comme association, qu'une vie culturelle hors saison est tout à fait viable.
Existe à L'Île-Dieu.
Voilà.
Merci à vous quatre d'être venus sur l'antenne de Neptune FM, à très bientôt.
Merci.
À bientôt.
Au revoir.
La mairie vous répond, le rendez-vous des élus de L'Île-Dieu. Réagissez, posez vos questions et réécoutez l'émission sur neptunefm.com.